À Hanovre, Handel s'ennuie. Sa fonction de maître de chapelle lui paraît dérisoire. Après une année, il n'y tient plus et sollicite un nouveau congé. On va le lui accorder, cette fois, avec un peu de froideur et de réticence. Handel se retrouve bientôt dans le tourbillon londonien. Coup sur coup, il produit deux opéras à l'italienne, Il Pastor Fido et Thésée, mais surtout, après une ode pour l'anniversaire de la reine, qui touche et émeut la souveraine, un Te Deum et un Jubilate pour célébrer la paix d'Utrecht, favorable à l'Angleterre. Seulement voilà, pour que l'œuvre pût être exécutée en grande pompe à la cathédrale Saint-Paul, il fallait que le compositeur fût anglais. Alors, fait exceptionnel pour l'époque, insigne distinction, la reine décida de nommer Handel compositeur officiel de la cour et de lui octroyer à ce titre une riche pension. L'œuvre, adroitement composée dans le style de Purcell, fut magnifiquement interprétée le 7 juillet 1713. Quel triomphe pour Handel et quel affront pour le prince George, de qui on n'avait sollicité ni autorisation de prolonger le séjour anglais, ni avis pour accepter de devenir sujet de la reine. Mais soudain, la reine Anne meurt, et voici que par un effet de l'histoire, ce prince George, duc de Hanovre, électeur de Saxe, apparenté à la couronne anglaise, devient souverain d'Angleterre. Handel est atterré. Est-ce que le sort lui tournerait le dos ? Il se fait oublier un moment. Il ne sait si l'ancien prince électeur va lui pardonner son insolence. On raconte qu'un jour où le nouveau roi se promenait en bateau sur la Tamise, il eut la surprise de croiser une large barge sur laquelle un orchestre était installé. Handel, qui le dirigeait, avait écrit tout exprès pour cette promenade sa célèbre Water Music, musique sur l'eau. George Ier fut enchanté et rappela Handel à la cour. Voici donc notre musicien installé à la cour anglo-saxonne, chéri du public, adulé par les grands seigneurs. Protégé par l'un d'entre eux, le duc de Chandos, il va connaître pour peu de temps une vie paisible de musicien comblé. Son talent atteint sa pleine maturité. Mais le démon de l'ambition le reprend et va le précipiter dans le tumulte des modes et des cabales qui envahissent la cour d'Angleterre. On vient de créer à Londres la Royal Academy of Music. Tous les lords en font partie. Handel en prend la direction avec deux musiciens italiens, Bononcini et Ariosti. Les lords s'amusent à faire de ses associés des rivaux impitoyables. Alors commence une période difficile pour Handel où il va accepter de se soumettre à des espèces de concours avec ses rivaux. Sur les scènes des théâtres de Londres, On vient siffler ou applaudir les œuvres des uns et des autres pour en comparer les faiblesses ou les mérites. Handel écrit et se dépense sans compter, et son génie s'épuise dans ses luttes stériles. Sa force, son énergie, son courage aussi. Il prend au cours des répétitions et même pendant les spectacles des colères légendaires, d'où il sort épuisé et moralement diminué. Un jour, il renverse et crève une énorme timbale sur la tête d'un musicien. Une autre fois, il doit menacer une chanteuse célèbre de la jeter par la fenêtre. Un soir, en pleine représentation, il lance sa perruque par terre et la piétine. Pauvre Handel, dans quel guépier s'était-il fourré? Entre-temps, il voyage, en Italie surtout, pour être au fait des œuvres qui triomphent sur les scènes de Venise, de Florence, de Milan et de Rome.